Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'AJT du local. Nous sommes aujourd'hui le mardi 14 février. Je suis évidemment ravie de vous accueillir dans cette nouvelle émission autour de l'actualité en Mayenne, où on va aujourd'hui entendre pourquoi les médecins généralistes sont en grève ce mardi. Beaucoup de portes closes si vous vouliez aller chez votre médecin aujourd'hui. 9 cabinets sur 10 selon un syndicat sont fermés. On va essayer de comprendre pourquoi. Et puis on va entendre aussi les agriculteurs du syndicat de la FDSEA 53. Avec plusieurs affiches que vous pourrez retrouver un petit peu partout en Mayenne pour justement revaloriser aussi leur métier et faire entendre plusieurs messages. Certains étaient d'ailleurs présents à la manifestation la semaine dernière à Paris, nous expliquerons pourquoi. Et puis, plutôt dans une deuxième partie d'émission, on entendra une nouvelle chroniqueuse, et oui, dans cette émission, Justine, que vous entendrez, qui va nous parler, une chronique inspirée forcément par le thème de cette semaine des radios associatives, la radio et la paix, que vous découvrirez donc plutôt dans une deuxième partie d'émission. Et puis bien sûr aussi, notre feuilleton commencé hier sur les coulisses de l'autre radio se poursuit aujourd'hui avec tous les bénévoles qui sont importants, même s'ils ne font pas de la radio, vous l'entendrez bien sûr en fin d'émission. D'abord, on fait un rapide point sur l'actualité en Mayenne avec cette aide financière de la ville de Laval pour les victimes du séisme en Turquie. Le tremblement de terre aurait fait au moins 35 000 morts selon les derniers bilans. L'aide sera votée lors du prochain conseil municipal pour la Turquie donc, puisque le contexte est pour l'instant plus complexe en ce qui concerne la Syrie, selon la ville de Laval. Aide qui sera versée à l'association Cité Unie France. On connaîtra son montant fin mars. Contre la réforme des retraites, de nouvelles mobilisations ce jeudi, et cette fois-ci non pas à Laval, mais à Mayenne, avec un rendez-vous à 11h30 place du 9 juin, devant la permanence du député Horizon Yannick Favennec. Il a laissé entendre qu'il ne pourrait voter le texte en l'état, et une deuxième mobilisation est prévue à Château-Gontier à 17h place Paul Doumer, devant la permanence de la députée Modem Géraldine Bagnier, elle favorable à cette réforme. Elle aussi aimerait obtenir le label Petite Cité de Caractère. La ville de Cran candidate en ce sens pour valoriser un patrimoine qu'elle estime méconnu. Objectif affiché, attirer plus de touristes qui connaissent peut-être le château et l'hippodrome, comme vous peut-être aussi, mais pas forcément les halles, le grenier à sel ou encore le prieuré des Bénédictins. Rendre visibles des femmes scientifiques oubliées, c'est le but de ce challenge photo organisé au niveau national par le CPIE, le Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement Centre Corse, et au niveau régional par le Zoom de Laval. Le principe est plutôt simple, il faut choisir des femmes scientifiques invisibilisées et les représenter sous forme de peinture, de sculpture, d'affiches ou de tableaux. Et les photos sont à envoyer jusqu'au 11 avril par mail à l'adresse zoom@aglo-laval.fr. Vous devriez bientôt les voir sur les bords des routes ou près des commerces. Plusieurs affiches installées par le principal syndicat agricole du département, la FDSEA 53, pour combattre plusieurs clichés liés à leur métier et se rendre visibles. Explication avec Florent Renaudier, producteur de vaches laitières et de volailles à Laubrière. Il vient hier d'être réélu à la tête de la FDSEA 53 pour 3 ans.
On est face à des importations de viande, donc on doit demander aux consommateurs s'ils préfèrent consommer plus de façon locale ou si la provenance s'en fiche. Donc ça, c'est la première affiche par rapport à la viande bovine, par exemple, avec les accords du Mercosur. Ensuite, il y a donc une deuxième affiche qui représente plus le symbole du ras-le-bol administratif. Aujourd'hui, on continue de superposer les réglementations.
Et une troisième insiste sur l'importance de leur métier pour la souveraineté alimentaire de la France. Le syndicat s'apprête en fin de journée à rencontrer pour la première fois la nouvelle préfète Marie-Aimée Gaspari sur une exploitation laitière à Quelaine-Saint-Gaud avec une feuille de route assez claire.
Déjà, voilà, c'est de lui présenter la ferme mayennaise. C'est quoi une exploitation en Mayenne de type familial avec des gens donc, qui sont convaincus par leur métier, mais on doit avoir le soutien de l'administration du service public pour, par exemple, tout ce qui est en relation avec le domaine des relations commerciales entre les GMS et nos interlocuteurs qui transforment nos produits agricole. Aujourd'hui, donc, il y a une grosse partie des relations commerciales qui vont encore se jouer au 28 février. Le sujet des poids et des normes, c'est aussi un vrai sujet pour notre département. On a aussi besoin d'avoir du renouvellement des générations sur notre département. C'est un enjeu complètement, c'est un enjeu de renouvellement. Mais par contre, voilà, ce poids des normes et des contraintes administratives ressort systématiquement chez chaque porteur de projet comme point négatif.
Et la semaine dernière, plusieurs agriculteurs mayennais se sont rendus à Paris pour manifester, notamment contre l'interdiction définitive de l'usage des néonicotinoïdes, un insecticide surtout utilisé pour les betteraves sucrières.
En Mayenne, on n'a pas de producteurs de betteraves sucrières. On a quelques producteurs donc de betteraves fourragères pour l'alimentation de nos troupeaux. Derrière, c'était aussi le symbole d'interdire un enrobage, d'interdire un produit de protection avec malheureusement une impasse technique. C'est d'ailleurs pas l'alternative. La seule alternative, c'est de voir malheureusement ces betteraves jaunir et ne pas produire ce produit pour après faire du sucre. Donc se pose aussi la question de l'indépendance alimentaire de notre pays français. Je n'ai encore pas vu d'abeilles aller butiner une feuille de betterave. Par définition, les abeilles butinent des fleurs et la betterave ne fleurit pas. Il y a certains produits qui ont des impacts négatifs sur les abeilles, mais en tout cas, ce produit-là, au jour d'aujourd'hui, elle est là donc pour enrober la semence. Techniquement, on préfère avoir une graine enrobée dans le sol plutôt que d'utiliser quelques insecticides.
Et pourtant, selon plusieurs études, l'utilisation de néonicotinoïdes fait baisser les populations d'abeilles et a un impact aussi sur d'autres insectes pollinisateurs. Mais dans un département d'élevage essentiellement, peu de chances que le sujet soit sur la table ce mardi lors de la rencontre avec la préfète à Culenne-Saint-Gaud. On va parler d'un tout autre sujet d'ici quelques minutes, la grève des médecins généralistes, juste après avoir écouté Serpent avec Don't Waste My Time, tout de suite. Vous êtes toujours toujours bien sur l'autre radio à l'écoute de l'agité du local. On vient d'écouter Don't Waste My Time de Serpent, bien sûr. Et puis on en a parlé en tout début de cette émission, compliqué aujourd'hui si vous voulez voir un médecin en Mayenne, puisque 9 cabinets médicaux sur 10 sont fermés, selon le syndicat CSMF, la Confédération des syndicats médicaux français. En cause, un mouvement de grève nationale des médecins généralistes pour une revalorisation du tarif de la consultation et surtout contre différents projets de loi dits coercitifs, dont la loi RIST, examinée au Sénat ce mardi. Elle propose un accès direct, sans prescription médicale, à certains praticiens. Et ce que craignent les grévistes, plus globalement, c'est une dégradation de la qualité des soins.
Luc Ducanel, je suis médecin généraliste à Mayenne, en Mayenne, et puis je suis aussi le président du syndicat des généralistes CSMA.
Donc on le sait, il y a cette grande mobilisation, cette grève des médecins libéraux ce mardi. Pourquoi déjà précisément faire grève et manifester ce mardi ?
Ça va être une mobilisation massive des médecins généralistes, plus importante que celle des 1er et 2 décembre, où déjà beaucoup, je vois par exemple en Mayenne, 80% des cabinets étaient fermés. Demain, ce sera 90 à 95% des cabinets, tout particulièrement des médecins généralistes qui seront fermés. Et bien sûr, pas les médecins qui sont en vacances, on est en période de vacances scolaires, mais sur la Mayenne, il y a un quart de médecins généralistes qui va monter, manifester à Paris. Alors pourquoi c'est avant tout en même temps un cri de colère, mais c'est aussi un cri de désespoir. Parce que les conditions aujourd'hui, le nombre de médecins en France, mais c'est valable aussi bien pour l'hôpital d'ailleurs, hein, le nombre de médecins est tel qu'on a de plus en plus de patients sans médecin traitant, et c'est inacceptable pour nous. Voir des patients diabétiques, des patients insuffisants cardiaques, dont le médecin traitant cesse son activité, souvent pour des causes de retraite, et qu'on n'arrive pas à reprendre tout de suite, il nous faut plusieurs mois, parce que toutes les semaines, on augmente notre nombre de patients, mais on arrive à des patientèles importantes, et qui fait qu'on ne peut pas travailler plus. Hein, en Mayenne, la moyenne d'heures de travail d'un médecin généraliste, c'est 65 heures, hein, parce qu'ils font aussi la permanence des soins. Et voilà, c'est une situation qui est inacceptable pour nous, et qu'en face, qu'est-ce qu'on a comme proposition ? On demande, dans le cadre d'une négociation conventionnelle, la convention médicale qui se négocie tous les 5 ans, qu'on nous donne les moyens de pouvoir embaucher des assistants médicaux, de travailler avec des infirmiers de pratique avancée, comme on l'a fait dans notre structure, où nous on a embauché une qui nous prend en charge 600 patients. On n'a aucune réponse de la part de l'assurance maladie. Et puis en même temps, on voit le gouvernement qui pousse des textes de loi coercitifs à l'encontre des médecins libéraux. Est-ce que c'est vraiment le moment où ces médecins qu'on entend, ces médecins généralistes qui nous disent, pour ceux qui travaillent depuis 15, 20, 30 ans, qui nous disent c'est les pires conditions actuellement, c'est les pires conditions d'exercice de ma vie, qui expliquent d'ailleurs que certains qui normalement devraient prendre leur retraite que dans 2, 3 ou 4 ans ont prévu anticiper leur départ en retraite, et puis que quand on voit des internes qui se destinaient normalement à la médecine générale, disent « moi je ne serai jamais médecin traitant, c'est trop dur ce que vous faites ». Est-ce que c'est le moment d'avoir des textes de loi comme la loi RIS, comme la loi Meynier, comme la proposition de loi de M. Garot, qui finalement rajoutent des contraintes au métier de médecin traitant ? Je ne pense pas, je suis même persuadé de l'inverse, et que globalement ça va amener à quoi ? C'est que, alors que le nombre de médecins malheureusement va encore diminuer dans les 10 ans à venir, tous les ans il y en aura moins, ben, ça va accentuer ce phénomène-là, parce qu'il y a des médecins soit qui vont partir plus tôt en retraite, ou des jeunes qui voulaient faire médecine générale au début et qui ne deviendront pas médecins généralistes.
Effectivement, ça c'est un problème. C'est quelque chose que vous avez observé depuis quelques années, là, vraiment, cette aggravation des conditions de travail ?
Bah, oui, ça s'aggrave parce que c'est pas nouveau, les problématiques d'accès aux soins. Mais on a réussi jusqu'il y a 2 ans à peu près à pouvoir, petit à petit, c'était pas du jour au lendemain, mais à prendre en charge les patients des médecins qui cessaient leur activité. Or là, c'est plus possible. On voit des médecins qui sont à 2000. Je rappelle que la moyenne nationale est 2100 patients médecins traitants. On est dans un département où beaucoup de médecins ont entre 2000 et 3000 patients médecins traitants. Mais quelque part, on peut pas faire plus. Ou alors, il faut qu'on innove dans nos pratiques. C'est-à-dire qu'on travaille avec un assistant médical, mais ce n'est plus le même cabinet. C'est-à-dire qu'il faut détruire nos cabinets, en refaire d'autres. Pour travailler avec une assistante médicale ou un assistant médical temps plein, il faut des locaux pour travailler avec un infirmier ou une infirmière de pratique avancée. Voilà, c'est innover dans nos organisations pour nous permettre de pouvoir prendre en charge plus de patients, mais sans travailler plus, parce qu'on travaille déjà de trop. D'ailleurs, on voit, on est beaucoup d'entre nous sommes maîtres de stage. Quand les jeunes viennent, ils disent « mais c'est super votre travail de médecin traitant, mais on ne veut pas le faire, vous travaillez beaucoup trop ». Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a aussi, c'est aussi un phénomène sociétal et culturel. Aujourd'hui, travailler 65 heures par semaine, voilà, est-ce que c'est de notre époque de 2023 de travailler 65 heures par semaine? Est-ce qu'on peut donner envie à des jeunes de faire notre métier? Bien sûr que non. Donc voilà, et c'est pas le moment de, par des textes, des propositions de loi, de donner le sentiment aux médecins, leur envoyer en plus de ça que des images négatives. Sommes-nous responsables de la problématique de l'accès aux soins? Non. Ceux qui sont responsables, ce sont les parlementaires. C'est les différents gouvernements qui, depuis 30 ans, ont organisé ce manque de médecins qu'on vit aujourd'hui, tant à l'hôpital qu'en ville. Et ce sont ces mêmes parlementaires qui, aujourd'hui, veulent mettre des contraintes aux médecins.
Donc oui, pour vous, justement, cette proposition de régulation de l'installation des médecins, c'est une fausse bonne idée ou même carrément une mauvaise idée?
C'est une très mauvaise idée. Pourquoi? Parce que de toute façon, ça ne va pas avoir d'effet positif. Moi, j'étais la semaine dernière en réunion avec l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire qui me disait que même à Nantes, vous avez des médecins qui cessent leur activité, qui ne sont pas remplacés. Donc, vous avez des patients à Nantes qui atteignent de pathologies chroniques, qui n'ont plus de médecin traitant, même à Nantes, la capitale de la région. Donc, alors bien sûr, il y a plus de médecins. La démographie est supérieure à Nantes qu'en Mayenne, mais je dirais que même dans notre département qui est la Mayenne, le sud de notre département qui est plus proche de la faculté de médecine d'Angers, la démographie est 50% supérieure à celle du Nord Mayenne. Donc aujourd'hui, dire qu'on va augmenter le nombre de patients sans médecin traitant, c'est ce que propose la loi Garot. À Nantes, dans des zones qui sont mieux dotées, mais pas insuffisamment, mais mieux dotées, ça sert à quoi de globalement de provoquer aussi de la souffrance chez ces patients-là? C'est pas ce qu'on attend très clairement. Ce qu'on attend aussi, c'est une reconnaissance par rapport à tout ce qu'on fournit dans la crise sanitaire. On a créé les centres Covid, médecins, infirmières, pharmaciens, les centres Covid en 2020, les centres de vaccination en 2021 et 2022. Et aujourd'hui, très clairement, il n'y a eu aucune reconnaissance de la part des pouvoirs publics vis-à-vis de la médecine ambulatoire et des autres professionnels de santé libéraux. Et aujourd'hui, c'est un ras-le-bol. Et que globalement, quand on souffre au travail, aujourd'hui, il y a deux attitudes possibles. Soit on travaille moins, soit on quitte son travail. Et aujourd'hui, vu la pénurie de médecins, entre autres les médecins généralistes, ont la possibilité de faire plein d'autres choses que médecins traitants. Et c'est la voie vers laquelle nous engagent tous ces projets de loi qui sont coercitifs à l'encontre des médecins libéraux.
Quand vous parlez de reconnaissance, il y a aussi tout simplement la question du tarif des consultations qui est aussi discutée, avec une proposition, si j'ai bien lu, de l'assurance maladie, de revaloriser ce tarif classique, de consultation classique, à 1,50 €. C'est pas suffisant pour vous?
Écoutez, le tarif de 25 € a été décidé en 2016. On est en 2023. On y a une inflation qui est à 6,5%. Moi, je vois des médecins généralistes qui avaient des secrétaires physiques dans leur cabinet. Et Dieu sait si c'est important pour les patients, surtout les patients âgés, et bien qui, quand cette secrétaire part à la retraite ou éventuellement n'ont plus de secrétaire, prennent un secrétariat téléphonique ou vont sur des agendas électroniques, tout simplement parce que c'est des charges importantes. Je pense qu'aujourd'hui, c'est humiliant cette proposition de l'assurance maladie de revaloriser de 25 € à 26,50 € la consultation, toutes les consultations d'ailleurs des médecins généralistes ou des médecins spécialistes, c'est-à-dire les majorer, une augmentation de 1,50 €, c'est de la pure provocation. Et en tout cas, c'est pas avec une telle revalorisation qu'on va améliorer l'accès aux soins.
Vous parliez justement des infirmiers et infirmières de pratique avancée qui se développent. Peut-être si vous pouvez rapidement repréciser ce qu'est un infirmier ou une infirmière de pratique avancée.
Alors, une infirmière de pratique avancée, c'est une infirmière soit libérale, soit hospitalière, qui a quelques années d'exercice et qui va partir 2 années en formation supplémentaire et qui lui permet de faire des examens cliniques, aussi de prescrire, de renouveler de traitements. Et je vois par exemple celle qu'on a dans notre pôle de santé, on lui confie les patients diabétiques, les patients hypertendus, les patients atteints d'insuffisance cardiaque, de maladie de Parkinson, de bronchite chronique obstructive. Voilà, à partir du moment où ils sont stabilisés. Mais d'un autre côté, on a aujourd'hui 6 fois, j'étais en lien avec l'infirmière de pratique avancée que l'on a pour des patients qu'elle suit. On est vraiment en exercice coordonnées, protocolisées. Ce n'est pas des infirmières qui sont toutes seules en ville, pratique avancée, qui décideraient de voir des patients parce qu'ils n'ont pas de médecin traitant. Ça, c'est un non-sens. Je vois par exemple dans notre maison de santé, on a salarié une infirmière de pratique avancée qui aujourd'hui prend en charge 600 patients. C'est des patients atteints de pathologies chroniques stabilisées. Et donc, ces patients qu'on lui a confiés, nous, ça nous permet, donc on les voit moins souvent, et ça nous a permis de prendre en charge d'autres patients en tant que médecin traitant. Et donc, à partir de là, prendre en charge plus de patients, c'est ce qu'on recherche. Hein, c'est des patients qui n'avaient pas de médecin traitant. Et en plus de ça, on reste dans une excellente qualité des prises en charge. Parce que le gros risque aujourd'hui, avec ces problématiques d'accès aux soins, à l'hôpital comme en ville, c'est qu'on aille vers une grosse diminution, une importante diminution de la qualité des soins. C'est ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, les infirmières de pratique avancée mettent en accès libre. On trouve que c'est une hérésie, surtout qu'en plus de ça, aujourd'hui en France, il n'y a que 45 infirmières de pratique avancée en exercice libéral. Donc, c'est certainement pas, c'est agiter un chiffon rouge sous le nez des médecins généralistes. Ce dont on a besoin, c'est de travailler en exercice coordonné, protocolisé, avec ces infirmières de pratique avancée qui seront une vraie plus-value dans les prises en charge. Mais se dire que l'infirmière de pratique avancée en accès libre, ça veut dire qu'on retourne au 19e siècle, au temps des officiers de santé de Madame Bovary, où il y aurait deux catégories de Français. Il y aura les Français qui auront le droit d'avoir un médecin traitant pour leur suivi, et puis ceux qui n'auront pas de médecin traitant, qui auront une infirmière de pratique avancée. Très clairement, je ne pense pas, en tout cas nous, ce n'est pas le système de santé qu'on veut proposer aux Français.
Est-ce qu'il y aurait d'autres propositions, en tout cas, pour justement pallier à tous les problèmes dont vous avez parlé d'accès aux soins ?
Alors, il y a deux propositions. Une qui a effet immédiat, c'est-à-dire inciter les médecins qui veulent prendre leur retraite à retarder leur départ en retraite. C'est-à-dire que ça, c'est une mesure efficace à J+1. Le médecin qui dit « moi, je cesse mon activité le 28 février, voilà le 1er mars, je suis en retraite », eh bien, si on l'incite à continuer son activité, quitte à travailler moins, mais ces médecins ont une telle activité, ils sont là J+1, c'est-à-dire que le 1er mars, ce médecin qui devait finir le 28 février, le 1er mars, il est dans son cabinet. Ça, c'est la première mesure qui est efficace très rapidement. La deuxième mesure, on sait qu'aujourd'hui, travailler avec un assistant médical temps plein pour un médecin généraliste, comme on voit dans les pays étrangers, en Allemagne, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Québec, eh bien, ça permet de prendre en charge 10% de patients en plus. C'est plein de contraintes, il faut refaire son cabinet médical, c'est des frais. Et qu'aujourd'hui, je suis dans un département avec une des plus faibles démographies médicales en France, mais si la moitié des médecins généralistes travaillaient avec un assistant médical temps plein, si on les accompagnait pour cela, il n'y aurait plus de patients sans médecin traitant, ou en tout cas les seuls qui n'auraient pas de médecin traitant, c'est ceux qui n'en veulent pas.
Donc pour vous, ça peut répondre en tout cas à une grosse partie du problème ?
C'est-à-dire que si je vous dis qu'il y a des solutions pour qu'il n'y ait plus de patients sans médecin traitant, enfin ceux qui en cherchent un horizon à un an, ça répond au problème, d'autant plus qu'on n'a pas le choix. Il faut innover puisque on sait que dans 5 ans, on sera moins nombreux qu'aujourd'hui et dans 10 ans, on sera moins nombreux que dans 5 ans. Dans les 10 ans à venir, le nombre de médecins en exercice va diminuer. Donc il n'y a pas le choix, on doit innover dans nos organisations professionnelles pour essayer de maintenir la qualité des soins qu'on a aujourd'hui.
Une 60aine de médecins généralistes mayennais sont à Paris aujourd'hui pour manifester. Et pour rappel, cette nuit fait aussi partie de celle où le service des urgences à l'hôpital de Laval est régulé. Entre 18h30 et 8h30 demain matin, il faudra d'abord appeler le 116 117 ou le 15 avant de vous déplacer. Et ce mardi, c'est non pas Donatien qui nous délivre sa chronique, mais Justine qui a pris sa place et sa plume en studio. Et oui, aujourd'hui avec nous en direct, c'est la semaine des radios associatives jusqu'à samedi. Vous le savez, on en parle depuis hier, autour d'un thème, la radio et la paix. Et ça tombe bien parce que Justine ne souhaite qu'une seule chose, chroniquer en paix.
Ce matin, les ronflements de Martine réveillent Léonce qui faisait pourtant un doux rêve, en paix avec lui-même. Contrarie, il descend prendre son petit déjeuner. Il allume le poste de radio. Nouvelle contrariété déversée par le flash RFI de 8h. La guerre en Ukraine, la guerre contre le réchauffement climatique, la guerre des prix, la guerre contre les inégalités, c'en est trop. Il coupe la radio et se verse un café. Pas le temps de le boire. Dérangé qu'il est par un coup de sonnette, le facteur apporte un recommandé. À coup sûr, une amende, des points en moins sur le permis, une relance du service des impôts, une facture impayée. Léonce craint le pire. Il envisage plusieurs possibilités. Claquer la porte au nez de ce pauvre facteur, prendre la lettre et la déchirer, jeter la lettre en l'air, la tremper dans son café. Mais il se résigne à ouvrir l'enveloppe pour découvrir une convocation de la juge aux affaires familiales. Décidément, la journée commence mal. Pas le temps de rallumer la radio. Martine, sa nouvelle compagne, fait irruption dans la cuisine. Lui ébouriffe les cheveux. Lui réclame un café chaud. Un croissant. Des toasts. Et un bébé pour Noël. Et ça l'agace. Il a une chronique à écrire à l'occasion de la semaine des radios associatives et il aimerait bien pouvoir chroniquer en paix. Il envoie promener le café, les croissants et les toasts. Il prend ses clés, il sort, il monte dans sa voiture. Une Clio du siècle dernier, elle aussi. Il part au studio, espérant trouver la tranquillité nécessaire à l'écriture de sa chronique. Il tourne le bouton à fond de son autoradio, réglé sur 107.9. L'autre radio diffuse un succès du siècle dernier, interprété par Stéphane Escher.
J'abandonne sur une chaise les chounelles du matin. Les nouvelles sont mauvaises, tout qu'elles viennent. J'attends qu'elles se réveillent et qu'elles se lèvent enfin. Je souffle sur les braises pour qu'elles prennent. Cette fois, je ne lui annoncerai pas la dernière hécatombe. Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Je vais à la fenêtre et le ciel ce matin n'est ni rose ni honnête pour la peine. Est-ce que tout va si mal? Est-ce que rien ne va bien? L'homme est un animal, me dit-elle. Elle prend son café en riant. Elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sur la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Les nouvelles sont mauvaises, tout qu'elles viennent. Crois-tu qu'il va neiger? Me demande-t-elle soudain. Me feras-tu un bébé pour Noël? Elle prend son café en riant. Elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sous la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets, déjeuner en paix. Oui, déjeuner en paix. Oh, déjeuner en paix. Oui, déjeuner en paix. En paix, en paix.
C'était la chronique de Justine, une première sur les ondes de l'autre radio. Et je voulais avoir justement tes premières impressions, savoir comment ça s'était passé.
Pour une première, je trouve que ça s'est pas mal passé. Après, j'étais un peu stressée, mais en tout cas...
Ça s'est pas entendu du tout.
Bon bah super. Et puis voilà, chroniquer en paix, c'est ce qu'on a lancé.
Très bien. Eh bien, écoute, maintenant, rendez-vous est pris pour une prochaine chronique, hein, bientôt sur les ondes, qu'on va retrouver, on l'espère. Merci beaucoup, Justine. Et en cette semaine, on l'a dit, des radios associatives, hein, on poursuit aussi notre feuilleton autour des coulisses de l'autre radio. On le disait hier, plus de 70 bénévoles sont impliqués dans la vie de la radio, et certains le font, pas comme Justine, justement, sans passer derrière le micro. Ils font partie du conseil d'administration de l'autre association, l'association qui gère la radio. Et leur mission, c'est de s'occuper des projets à venir, du budget, des grandes orientations, chacun avec une tâche bien précise, et on commence avec Stéphanie.
Comme je disais, je suis rentrée dans le conseil d'administration, je crois, il y a 4 ans. Alors, au départ, donc un conseil d'administration, il y a un bureau donc, qui est constitué d'une présidente, d'un trésorier ou une trésorière et d'un ou une secrétaire. Et puis ensuite, il y a tous ceux qui gravitent autour du bureau, qui font partie du conseil d'administration et qui rentrent dans des commissions. Donc, en l'occurrence, à l'autre association, il y a la commission RH, donc comme son nom l'indique, la commission communication, la communication convivialité avec les bénévoles et j'en passe, enfin, il y en a sûrement d'autres que j'oublie, la commission écoute, il y a eu à une certaine époque aussi. Donc au début je faisais simplement partie des commissions. Faire partie d'un conseil d'administration et dans celui de l'autre association, ça veut dire qu'il faut être disponible une fois par mois pour les réunions de CA. Où il y a des décisions qui se prennent, parfois des décisions importantes, notamment est-ce qu'on se positionne ou non pour le DAB+, qui est la prochaine technologie qui va venir révolutionner la radio. Comment est-ce qu'on gère le budget parce qu'il y a quand même 4 salariés aujourd'hui à l'autre radio. Aujourd'hui, je suis vice-trésorière parce que j'avais envie de découvrir qu'est-ce que c'est que tous ces chiffres et la comptabilité dans une asso. Je venais vraiment avec une envie de découvrir. Je ne suis pas satisfaite de mon implication à ce niveau-là, mais ça viendra peut-être à un autre moment. C'est très important parce que l'autre radio, c'est une radio associative. Il faut aller chercher l'argent pour diffuser. Donc c'est aussi des subventions, des dossiers de subventions. Il se passe énormément de choses derrière la diffusion d'une radio. Il y a plein de choses qui se décident et c'est vraiment extrêmement important pour une radio associative, en tout cas, qu'il y ait des gens qui agissent dans l'ombre pour qu'il y ait une radio qui puisse diffuser 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Sur l'antenne.
Bonjour, je m'appelle Manu Grimaud et je suis fan depuis très très longtemps de l'autre radio, radio associative. Je suis le secrétaire au sein du conseil d'administration. Je soutiens tous les projets qui peuvent avoir lieu au sein de la radio, qui peuvent émaner des bénévoles, des gens du conseil d'administration ou des salariés. Et évidemment du territoire aussi, parce que c'est ça une radio, une oralité, c'est d'être à l'écoute des envies qui peuvent apparaître à n'importe quelle porte, à n'importe quel endroit. Et donc moi je suis compteur de métier, mais et donc j'aime l'oralité de la radio et des micros. Mais mon travail bien essentiel, c'est de retranscrire sur clavier toutes les paroles qui ont pu être données lors de comptes rendus. Je fais un métier public. Et donc, je me mets souvent en avant lors de mes représentations ou lorsque je fais des médiations. Et donc là, j'avais vraiment envie d'être petite fourmi. Et j'ai eu autour de moi beaucoup de gens qui m'ont soutenu dans mon activité. Et je voulais rendre l'appareil au tissu social et sociétal. Et en me disant, tiens, voilà, je vais m'investir discrètement pour voir comment ça fonctionne aussi. Et puis donner voilà, ma toute petite pierre à l'édifice. On a chacun nos compétences pour pouvoir réagir de son point de vue sur un sujet donné ou sur un problème à résoudre. Et bah, c'est aussi ça la richesse de l'être humain, en fait, pour de vrai. On est différents et on arrive quand même à s'accorder pour un projet en commun. C'est chouette. Je crois qu'il y a la plupart des gens sont des utopistes. Et donc, on a toujours des rêves à réaliser. Et alors, on se tape voilà, 1h30, 2h de réunion, de désaccords, de fous rires ou de choses complexes à réaliser administrativement. Mais en fait, c'est pour une utopie. C'est pour se dire qu'on fait un petit peu ce qu'on peut à notre niveau pour faire en sorte que la société se déroule mieux, quoi. Depuis 2 ans et demi que je suis là, j'ai envie d'une émission. C'est vrai. Et j'arrive pas à la mettre en place, j'arrive pas à me donner le temps de le faire. Je suis quelqu'un qui réalise toujours ses rêves, enfin qui essaye du moins, et je sais que je le ferai.
Et donc, vous l'avez compris, il va falloir rester bien à l'écoute pour découvrir cette future émission. Demain, troisième épisode consacré au côté bénévole radio de Stéphanie, qui officie sur les ondes bien accompagnée dans l'émission Sorcière. On en parlera justement demain. Puisque ça y est, c'est la fin de notre émission L'Agité du Local pour ce mardi. Restez bien sûr sur l'autre radio, puisqu'à 19h, il y aura l'Instant Jeune. On parlera cyberharcèlement, classe, collège et primaire des possibles, mais aussi sport, bon plan voyage au Québec. Et oui, pour la dernière de l'animatrice, Florine, même si l'émission, elle, se poursuivra avec un autre animateur, une autre animatrice. Ce sera suivi à 21h de Frères de Chaussures. Et nous, on revient demain, toujours à 12h15. Soyez au rendez-vous. Je vous souhaite une très belle journée.